Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. Alors, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole. Alors, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, je vais vous asseoir. Alors, la lettre aujourd'hui, le sermon, je l'ai intitulé tout simplement « Lettre à l'église de Philadelphie ». « Tu as gardé ma parole, je t'ouvrirai une porte ». Alors, en gros, je pense que c'est l'idée fondamentale qu'il y a dans le texte. Ils ont été fidèles à la parole de Dieu, ils l'ont gardée, et Dieu, Jésus, va leur ouvrir une porte. On va voir un petit peu les détails de tout cela. Alors, on va regarder trois idées à l'intérieur de ce passage-là. Le premier, tu as gardé ma parole, ta résolution, pour montrer jusqu'à quel point il était résolu. Quand on dit qu'on est résolu, on est décidé, il y avait vraiment de la fermeté à garder la parole de Dieu. Donc, leur résolution, on va en parler du verset 7 à 9, et on va regarder aussi l'autre idée, tu as gardé ma parole, le résultat. Autrement dit, le fait qu'ils ont gardé la parole de Dieu, ça va avoir produit un résultat. On va regarder le résultat des versets 10 et 11. Et versets 12 et 13, on va regarder, tu as gardé ma parole, ta récompense. Comment Dieu va récompenser tout cela. Bien entendu, tous ceux qui étudient le livre de l'Apocalypse, il y en a qui ont vu les églises comme étant des périodes de temps, disons la première église du siècle de l'année 100 à la 300, de 300 à 600. Et on avait vu lors d'un sermon précédent que ça ne fonctionne pas. Parce que la plupart des gens aujourd'hui qui vont étudier le livre vont arriver à l'église de Philadelphie et ça correspond aux années, selon eux, selon ce plan-là, aux années 1800, 1900 aujourd'hui. Autrement dit, tout le monde se voit comme étant l'église de Philadelphie. Bien sûr, c'est intéressant de se voir comme l'église de Philadelphie parce que le Seigneur n'a que des bons mots pour eux. Si on va regarder là-dedans, il ne lui reproche pas grand-chose à l'église de Philadelphie. Alors, tout le monde veut s'identifier comme faisant partie de l'église de Philadelphie, mais je ne suis pas sûr que c'est le cas tant que ça, là. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va regarder l'idée qu'à l'intérieur de l'ensemble des messages que le Seigneur donne à 16 églises, au pluriel, il y en a seulement deux qui ne reçoivent aucun reproche ou aucune réprimande. Et c'est celle de Smyrne et celle de Philadelphie. C'est le fun quand quelqu'un ne nous fait pas de réprimande. Il nous regarde notre situation, là, puis tout ce qu'il voit, c'est juste du positif. C'est très intéressant, surtout quand ça vient du jugement du Seigneur lui-même. Alors, juste cette particularité-là de ces deux églises-là, de Smyrne et Philadelphie, devrait nous amener à la lire avec beaucoup d'attention. Parce que si le Seigneur ne fait pas de reproches, c'est parce qu'il y a plein de choses à nous enseigner sur le côté positif de ce qui se passe dans l'Église. Alors, ce que j'ai fait, ceux qui ont les notes, j'ai fait un petit tableau pour qu'on fasse un petit peu une révision de ce qu'on a vu depuis le début concernant les cinq églises qu'on a vues jusqu'ici. Là, on est en train de faire, aujourd'hui, on va faire la sixième, on va être dans Philadelphie. Alors, quand on regarde dans l'église d'Éphèse, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à cette église-là qui faisait de bon? Il y avait des bonnes œuvres et il y avait de la persévérance. Autrement dit, quand le Seigneur, il regarde nos œuvres, et si on persévère, ça aussi, il remarque. Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que rien ne lui échappe. Peu importe le ministère qu'on fait dans une église, la projection, l'accueil, n'importe quoi, on pèle. Le Seigneur voit tout et tout est écrit dans son livre. Dites-vous une chose, si vous avez fait quelque chose pour le Seigneur, vous allez recevoir une récompense. C'est la Bible qui le dit. Alors, c'est vrai. Alors, c'est un comptable extraordinaire, le Seigneur, il n'y a rien, il n'oublie rien du tout. Et autre chose qui était bon dans l'église d'Éphèse, c'est qu'il ne tolérait pas les méchants. Et il ne tolérait pas ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Et autre chose qui était dans le positif pour cette église-là, ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. L'église de Smyrne, qu'est-ce qu'il y avait de bon? Ils enduraient la pauvreté et les afflictions. Ils enduraient aussi les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Pergame, ce qu'il y avait de bon, c'est qu'il avait demeuré fidèle même jusqu'à la mort. Alors ça, c'est un trait, si jamais aujourd'hui les vraies persécutions reviendraient et qu'on aurait à choisir où tu restes là, puis tu risques la mort, peut-être qu'il y aurait un certain ménage qui se ferait dans les églises, par le fait même. Et qu'est-ce qu'il y avait de mauvais? C'est qu'il leur reprochait que cette cité-là, et c'était là que Satan avait son trône, et certains aussi adhéraient aux enseignements de Balaam, qui enseignait de manger de la viande sacrifiée aux idoles et qui vivait dans l'immoralité sexuelle. Donc, il y avait des personnes qui encourageaient ça. Imaginez-vous, une église qui encourage ces choses-là. Quelque part, il n'y a pas pour rien que le Seigneur le faisait des reproches et des réprimandes très sévères. Et aussi, il y en avait certains qui adhéraient aux enseignements des Nicolaïtes. Thyatire, le Seigneur dit qu'ils sont connus pour leur amour, leur foi, leur service et leur persévérance. Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais? C'est que certains toléraient la fausse prophétesse, qui s'appelait, il l'appelait Jézabel, qui égarait les croyants en enseignant de manger des viandes sacrifiées aux idoles et en encourageant et en excusant l'immoralité sexuelle. Alors, quelque part, le Seigneur, il la reprend très sévèrement dans cette partie-là. Dans l'église de Sardes, on avait vu que ce qu'il y avait de bon, c'est qu'un reste était demeuré fidèle dans toute leur marche chrétienne. Et ce qu'il y avait de mauvais, c'est que la majorité avait la réputation d'être vivant, mais était mort ou s'en allait en s'affaiblissant dangereusement. Dans le fond, si on prend les sept églises, ou même dans les cinq premières, il y a beaucoup de toute l'histoire de toutes les églises du monde entier depuis le début. Il faut le faire, tu sais. L'Esprit de Dieu, être capable de choisir des mots, que tout ce qui va se passer dans toutes les églises du monde entier, de toutes les époques, soit là. Puis tout est là aussi, définitivement. Alors, ce qu'il y avait de mauvais, c'est que justement, il avait la réputation d'être vivant, mais il était mort. Autrement dit, les églises étaient remplies d'inconvertis. Ils se disaient convertis, mais toutes leurs œuvres démontraient qu'ils n'étaient pas des véritables croyants. Alors, leurs œuvres n'étaient pas parfaites devant Dieu. Alors, quand on regarde l'ensemble des ceux qui ont acheté le livre de l'Apocalypse d'Hendrickson, il mentionne le fait que l'ensemble des messages qui sont envoyés aux églises suivent un plan qui est à peu près le même pour chacun des églises. Et ça, normalement, ça commence par une adresse ou une salutation écrite à l'ange de... c'est suivi par le titre que Christ donne. Et le titre que Christ donne est toujours en rapport très concret par rapport à la situation qu'ils vivent. Autrement dit, il donne un de ses attributs qu'ils ont besoin d'entendre au moment où ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Il y a toujours de l'approbation, dans la majorité des cas, et il y a aussi de la désapprobation, il y a quelques exceptions. Et le Seigneur fait toujours soit un avertissement ou soit une menace. Quand on pense à ça, le Seigneur qui fait une menace à ses églises, ça veut dire que le Seigneur peut faire des menaces aux églises. Enligne-toi, autrement dit, ou je vais juger, alors quelque part. Il y a toujours une exhortation, puis il y a toujours une promesse. Alors, dans chaque église, Christ trouve quelques sujets d'approbation. La seule exception est celle qu'on va voir peut-être la semaine prochaine ou l'autre semaine après, Laodicée. C'est la seule église où que le Seigneur, il n'y a aucune approbation. Autrement dit, tout va mal dans cette église-là. Et il y en a qui disent, bien, Laodicée, c'est l'église de la fin, l'église de la temps des... Je pense qu'il y a plus que ça. C'est l'ensemble des personnes qui se disaient croyants historiquement, mais dont les œuvres démontrent que, fort probablement, parce que quand le Seigneur dit « Vous êtes pauvres », etc. Quand on arrivera à Laodicée, on en parlera. Alors, le Seigneur fait des reproches à 5 des églises à laquelle il envoie des messages, et les 2 exceptions louables sont celles qu'on a dit tantôt, Smyrne et Philadelphie. Alors, on va examiner un peu plus en détail pourquoi, quelles étaient les caractéristiques, parce que c'est des villes, hein. Philadelphie, il y a une ville aux États-Unis qui porte ce nom-là aujourd'hui, à cause de ça, ça vient de la Bible. Mais l'église de Philadelphie, à l'époque, c'était en Asie, et elle avait des caractéristiques bien particulières. C'était une région volcanique. Autrement dit, une région volcanique, c'est qu'il y a des éruptions. Et ce qui sort de là-dedans, c'était bon pour les raisins, là, les vignes. C'était une région qui était très, très riche en vignes et produisait du vin. Et semble-t-il que les vins qui venaient de Philadelphie avaient une excellente réputation. Mais le problème de la ville, c'est que leur économie était basée presque uniquement sur les vignes. Une économie qui est basée sur une chose... c'est toujours dangereux. Alors, c'était une ville qui a leur caractéristique, à cause que c'était volcanique, les sols étaient propices à la vigne. Mais ils étaient menacés par la famine parce que les productions n'étaient pas suffisantes. Il aurait fallu qu'il y ait d'autres choses économiquement pour les faire vivre, mais c'était le gros de leur production. C'était aussi une ville qui était fondée, qui avait été fondée dans un but qui était délibérément missionnaire. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est que les Grecs, c'était comme à la limite du territoire qui sépare la civilisation grecque de ce qu'on appelait la Phrygie. La Phrygie, c'était comme, il était à la porte. Pas pour rien qu'il y a des mots que le Seigneur utilise. Il ouvre des portes, il ferme des portes. Ça avait été fait dans le but d'ouvrir la civilisation grecque, à aller la porter dans la Phrygie. Autrement dit, la Phrygie, c'était considéré comme étant des païens de la pire espèce. Et les Grecs, eux autres, ils se considéraient comme étant, nous, on est civilisés. Et c'était comme l'endroit où, à partir de là, on se rendait pour vouloir faire avancer la civilisation grecque dans la Phrygie. Alors, il y avait des tribus barbares qui restaient dans ce coin-là, des sauvages. Ils appelaient des sauvages. C'était, en quelque sorte, la porte vers un autre continent. Et le Seigneur va se servir de cette image-là que les païens utilisaient pour promouvoir la civilisation grecque, lui, pour dire, je vais t'ouvrir une porte, mais ça ne sera pas une porte pour promouvoir la civilisation grecque. Ça va être une porte pour te promouvoir... Le christianisme. Très intéressant de faire le lien. Parce que ces gens-là savaient depuis longtemps que une des raisons de la fondation de la ville, c'était ça, promouvoir la civilisation des Grecs. Alors, le volcanisme de la région avait, bien entendu, une contrepartie qu'on pourrait dire fâcheuse. C'était quoi la contrepartie fâcheuse? C'est qu'il y avait des éruptions de façon constante et les gens étaient rendus qui craignaient. Dans une ville, quand il y a une éruption, c'est dangereux. Qu'est-ce que les gens faisaient quand il y avait des éruptions? Pour un certain temps, ils avaient tellement peur, ils sortaient de la ville puis ils s'établissaient comme des gens de petits camps. Puis quand ils voyaient qu'après quelques temps, quelques semaines, quelques mois, que ça se calmait, ils rentraient dans la ville. Alors, qu'est-ce que ces gens-là souffraient? Ils souffraient d'instabilité. Ils souffraient de... Et quand le Seigneur dit « Je veux faire de toi une colonne », C'est solide, une colonne. Alors, le Seigneur utilise qu'est-ce qu'ils vivaient dans le but de leur faire comprendre quelque chose qu'ils vivaient au niveau matériel, pour leur faire comprendre quelque chose que lui, il veut faire avec eux, mais d'une nature spirituelle. Alors, bien entendu, il vivait dans des huttes de fortune en dehors de la ville. Alors, comme on dit, ce rythme de fuite et de retour avait fini par faire partie de leur vie. La promesse de Christ, « Je ferai du vainqueur un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en ressortira jamais. » Pour eux, ça devait avoir une connotation particulière. Quand tu passes ton temps à aller habiter dans des petites huttes, à revenir dans la ville, quand le Seigneur dit... faire une colonne. Alors, ils parlent de façon spirituelle, mais c'est quelque chose qui devait résonner très bien dans leur cœur. Et Philadelphie, elle avait une autre caractéristique, elle était bourrée d'idolâtrie. Parce qu'on disait, il y avait tellement de faux dieux et de fausses déesses dans cette ville-là qu'on l'appelait la petite Athènes. Et Athènes était la région chez les Grecs où il y avait le plus... Tu sais, quand Paul il dit... Il n'avait pas tous les dieux, lui-même, il avait été prudent, il avait fait une autel, il avait dit « Oh, Dieu inconnu! Au cas qu'on en aurait oublié un, on va en faire un. » Alors, il l'avait appelé la petite Athènes, c'est parce qu'à Philadelphie, il y avait énormément d'idolâtrie. Une église qui réussit à garder sa foi à la parole de Dieu et à être fidèle dans des circonstances similaires, c'est une église forte. C'est sûr que Philadelphie, on veut tous s'identifier comme « Ah, oh, ben nous, notre petite église, tu sais, à Nantes, on est une église de Philadelphie. » Mais dans le fond, je pense que quand le Seigneur s'adresse aux sept églises, on a quelque chose à apprendre pour chacune des églises, parce qu'il termine toujours par la fameuse phrase que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel. Donc, à quelque part, il n'y a pas un message... dans les sept messages que le Seigneur envoie aux sept églises, qui ne s'adressent pas à nous. Personnellement, c'est ça que quand on lit les Écritures, ça peut arriver qu'on lise ça, hein, l'Église de Philadelphie, point Sardes, et on s'arrête pas à méditer, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire à moi? Parce que c'est ça. Il y a un message pour tous les individus qui sont des croyants dans les sept messages. Alors, on va commencer par le premier point, 7 à 9. On va relire les passages 7 à 9. Écrit aussi à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Donc, on va regarder le verset 7. La résolution qu'ils ont de garder la parole de Dieu, elle a une source, et cette source-là, c'est Christ lui-même. Alors, quand il utilise les titres, on a dit qu'il utilisait des titres qui ont un rapport avec sa nature et aussi ce qu'il vivait comme situation. Et le titre qu'il utilise, le premier nom qu'il utilise pour leur parler, il dit « Celui qui te parle, c'est le Saint. » Le, pas un, le. L'article défini, il parle de le Saint, il parle du Dieu très saint. On parlait tantôt d'enfer, où est-ce que le monde va après le décès s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Le Saint, ça veut dire la sainteté de Dieu. On n'a pas aucune idée jusqu'à quel point. On a une idée, parce que les Écritures nous donnent toutes sortes de renseignements sur la sainteté de Dieu. On aurait intérêt aujourd'hui à réétudier la doctrine de la sainteté de Dieu, beaucoup plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est la sainteté? Alors, tant dans son humanité que sa divinité. Autrement dit, Jésus, humainement, était parfaitement saint, quand il est venu sur la terre. Là. Mais comme Dieu, il n'est pas juste parfaitement saint, il est infiniment saint. Alors, il était... la caractéristique de la sainteté, c'est la séparation absolue du mal, et aussi le fait que sa sainteté est aucunement comparable avec qui que ce soit. la sainteté de Dieu. Des fois, on peut parler de la sainteté des hommes. Il y a certains hommes que, quand ils sont venus sur la terre, étaient soit des pasteurs, soit des missionnaires, ou soit des chrétiens, et qui avaient un niveau de sainteté vraiment exceptionnel. Si vous lisez des biographies de saints ou de saintes, vous allez voir qu'il y avait des niveaux, il y a des personnes qui avaient des réputations d'être très saints. Mais si vous comparez la sainteté des plus saints des hommes avec celle de Dieu, quand on dit c'est incomparable, ça ne se compare pas. La sainteté de Dieu ne peut pas se comparer avec celle des hommes d'aucune façon. Parce qu'elle est... Le mot ineffable, quand on rencontre le mot ineffable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe les mots, la richesse de mon vocabulaire, ma capacité d'élocution, jamais je ne serai capable de parler avec intelligence et pleinement, qu'on pourrait dire, de la sainteté de Dieu. Ineffable, ça veut dire qu'il dépasse la capacité d'expression. C'est ça que ça veut dire, ineffable. C'est ça que Dieu est dans sa sainteté, le saint. Et il est aussi une sainteté irréprochable. Si vous prenez les livres, les histoires de saints, les biographies des saints ou des saintes, vous allez voir, à un moment donné, ils ont toutes des petites chutes, des petites faiblesses, des petites misères. Dieu n'a aucune faiblesse, aucune misère, c'est la perfection absolue. Et quand on parle d'indescriptible et parfaite, tu ne peux pas décrire la sainteté de Dieu. Je sais pas si vous vous souvenez du passage d'Ésaïe 6, quand les anges les plus saints, parce qu'il y a des anges, leur position, plus tu es proche de Dieu dans le service, plus tu es saint, et quand ils se sont approchés de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Ils se couvraient les pieds, tu sais, la sainteté de Dieu était grande, ils se criaient l'un à l'autre, saint! Saint, saint à l'Éternel. Imaginez-vous si les anges qui n'ont jamais péché, quand ils se présentent devant Dieu, ils se ferment les yeux, puis ils se cachent les pieds. C'est parce que la sainteté de Dieu doit être quelque chose d'extrêmement éblouissant, on pourrait dire. Et si les anges sont éblouis par la sainteté de Dieu, nous, on l'est moins parce que à cause de notre corruption, on a de la difficulté à comprendre une sainteté d'un niveau, de ce niveau-là. Alors, la lettre est envoyée à des croyants qui sont amoureux de la sainteté. Pourquoi qu'on peut savoir qu'ils sont amoureux de la sainteté? Parce qu'ils ont gardé sa parole. Malgré toute la ville qui est remplie d'idoles et qui ont des difficultés à tour de bras, c'est des gens qui ont resté accrochés aux Écritures, qui ont resté fidèles à Dieu. Et il utilise un autre terme, il s'appelle « le véritable ». Alors, de quoi il parle? Il parle-tu de juste? Le véritable, il parle du fait qu'il est la vérité absolue. Dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, on lit la phrase suivante. On est loin, on est plus loin dans l'Apocalypse, là. On est dans 3, mais là, il parle d'un titre que le Seigneur utilise dans le chapitre 19. Il dit « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait fidèle et véritable, qui juge et qui combat avec justice. » Intéressant parce que je suis en train de lire justement le livre de Greg Nicholls sur Christ, et je suis allé voir ce que lui dit sur cet aspect-là de véritable. Voici ce qu'il dit dans son ouvrage « The Doctrine of God ». La fidélité de Dieu est la fidélité suprême de Dieu, consistant en sa véracité et sa véracité infaillible, par lesquelles chaque mot qu'il prononce est vérité, et dans sa fiabilité, et sa fiabilité sans faille, par lesquelles il tient toujours parole, promesse ou menace, ou prédiction, et par lequel il maintient fermement son travail de créateur et de rédempteur. Le véritable et le fidèle, autrement dit, l'idée vraiment de la fidélité à l'intérieur de ça. Non, généralement, il ne dit jamais un mensonge, mais tout ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais souvent, quand vous lisez les Écritures dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit quelque chose, on est rendu 5-6 chapitres ou 5-6 livres plus loin. Mais on est rendu qu'on lit, on lit le passage, on ne se souvient pas. Lui dit, je veille sur ma parole. Quand il dit quelque chose, tu peux te fier dessus. Ça, c'est intéressant. Et il utilise un autre terme, le souverain. Celui qui a la clé de David, mais c'est comme s'il dirait, je suis souverain. Celui qui a la clé de David, ça a une référence à un passage de l'Ancien Testament dans Ésaïe 22, verset 22. La clé de David, c'est une expression qui se réfère à ce passage-là et qui veut montrer que Dieu est souverain dans l'attribution du salut. Quand il dit Ésaïe 22, 22, ça dit « Je mettrai sur son épaule ». Dans le contexte, il parle de Christ. Et il dit, là, Dieu dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et nul ne fermera. » C'est sûr que ce passage-là fait référence à ce passage-là. Nul ne fermera, et il fermera, et nul n'ouvrira. Vous allez voir qu'il utilise lui-même, Jésus, quand il parle à son Église, il dit que c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Autrement dit, dans l'évangélisation, tantôt, je vous disais qu'on a intérêt à prier beaucoup, parce que celui qui rouvre les portes, celui qui rouvre les cœurs, c'est lui. Alors, si on ne le prie pas, on peut distribuer toute la littérature chrétienne du monde, ça produira zéro effet. C'est possible qu'on pourrait distribuer toute la littérature chrétienne du monde, puis il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait le travail d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir même les régions dans lesquelles on va travailler, où on peut être efficace. Alors, quand on ouvre, mais je le sais par expérience, dans les églises, on fait du travail d'évangélisation. Mais peu d'églises, et je mesure mes mots, peu d'églises ont précédé leur période d'évangélisation par une période d'intense prière. Et ça, selon moi, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et il utilise un autre mot, le Tout-Puissant. Il n'utilise pas le mot le Tout-Puissant, mais c'est vraiment la caractéristique auquel il fait référence, parce qu'il dit... qui ouvre et personne ne ferme, il faut que tu sois puissant, là. Il dit, moi, quand je rouvre, là, essaye pas de la fermer, ça ne marchera pas. Et l'inverse aussi. Qui ferme, quand il ferme une porte, tu sais, souvent on dit, quelqu'un, si c'était la volonté de Dieu, Dieu va ouvrir les portes, puis si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu va te fermer une porte. Puis s'il ferme la porte, essaye pas de l'ouvrir, là. Puis s'il la rouvre, essaye pas de la fermer non plus. Alors, il est souverain, c'est lui qui contrôle absolument toutes ces choses-là. Alors, la toute-puissance de Jésus-Christ, elle s'exprime de plusieurs façons. Il ouvre ou il ferme la compréhension des Écritures. Souvenez-vous, passage, après sa résurrection, il a rencontré les disciples d'Emmaüs. Il leur a ouvert l'esprit, l'intelligence à la compréhension des Écritures. Il ne faut jamais oublier, quand on lit les Écritures, de prier le Seigneur de nous ouvrir l'intelligence à la... C'est lui qui fait le travail. La preuve de ça, c'est que souvent on lit, puis des fois on a l'impression qu'on n'a rien compris. On dirait que c'est comme... on glisse dessus. Bien, il faut s'agenouiller devant le Seigneur, pas obligé d'être nécessairement sous tes genoux, mais dans ton esprit, quand tu lis la parole, demande au Seigneur... de t'ouvrir l'intelligence, le cœur, à la compréhension et à l'application des Écritures, bien entendu. Alors, il ouvre ou ferme la compréhension des Écritures, il ouvre ou ferme des portes pour l'avancement de l'Évangile. Si on prie le Seigneur, ici on n'est pas beaucoup, là, mais le Seigneur, s'il veut, du jour au lendemain, ça peut doubler. Ça s'est vu dans des églises. Je l'ai vu à Québec, ça a été le même. C'était un petit groupe, puis d'un coup, à un moment donné, le Seigneur a ouvert une porte par l'intermédiaire de Raymond Perron. Et ça l'a fait, ça a plus que doublé. Ils sont rendus que l'église est trop petite pour eux. Mais pensez pas que le Seigneur n'est pas capable de faire la même chose avec nous. Là. Il peut venir un temps que l'église ici va être trop petite. On va pouvoir s'en aller ailleurs. Bien, il faut prier, puis il faut prendre conscience que la croissance dépend de Christ. Parce qu'on a deux passages qu'on va regarder dans 1 Corinthiens et dans 2 Corinthiens qui nous montrent que c'est lui, le Seigneur, qui rouvre des portes. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. « Cependant, je demeurai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte m'y est ouverte. Qui l'a ouvert? Lui. Une grande porte m'y est ouverte. C'est le Seigneur qui l'a ouvert. Avec espérance de succès, mais il y a beaucoup d'adversaires. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, quand je vins à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eut ouvert une porte. Qui a ouvert la porte?
Le Seigneur.
Deuxième point qu'on va regarder par rapport à l'idée du début du verset, on vient de finir le verset 7, on commence le verset 8. Ta résolution a une portée divine, Jésus te confie une mission missionnaire. Il dit, je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Intéressant de faire le lien avec nous. Est-ce qu'on est une grosse église de 1000 personnes comme il y a au Québec? Il y en a quelques-unes au Québec. Pas beaucoup, il y en a une ou deux. Aux États-Unis, il y a plein de grosses églises. Nous, on est tout petits. On est petits, on est pauvres. Pensez-vous que le Seigneur, il peut faire quelque chose pour nous? Bien oui, bien entendu. Il dit, parce que tu as peu de force. Nous aussi, on pourrait se regarder et dire, oui, on est petits. On est pauvre, mais ça veut-tu dire que le Seigneur n'est pas capable de travailler au niveau des petites églises? Ben non, bien entendu. Il dit, je connais tes œuvres. On parlait tantôt que le Seigneur est un minutieux observateur de toutes nos œuvres et nos actions pour demeurer dans le chemin étroit et resserré. Quand il dit, je connais tes œuvres et tu as gardé ma parole, le Seigneur, il n'y a rien. Si on en a déjà parlé, on en parle encore. Il n'y a pas une petite action que vous avez faite dans le but de maintenir l'Église propre, d'ouvrir l'Église, de peu importe le ministère que vous faites dans l'Église, le Seigneur, il sait tout ce que vous avez fait depuis le début que l'Église existe, puis il note tout de façon très précise. Quand il dit « Je connais tes œuvres », il peut s'adresser à chacun de nous ici, puis dire « Je connais tes œuvres », puis dites-vous une chose, moi, ça se peut que vous ayez fait beaucoup d'œuvres pour le Seigneur que je ne suis pas au courant. Mais le Seigneur, lui, il connaît tes œuvres, faites-vous en pas. Il les a tout enregistrés, il les a tout observés, et il n'y a rien. Ça peut échapper au regard des hommes, mais jamais au regard de Dieu. Alors, il sait les efforts que les églises, que les individus ont consacrés à la prédication fidèle, à l'évangélisation et au service. Peu importe le type de service qu'on fait. Ce qui est intéressant, ça nous échappe dans les versions françaises, cette valeur, parce que quand on va dans les versions anglaises, des fois, on voit un mot qui est différent de nous autres. Le mot « behold ». En anglais, si tu vois dans une version anglaise comme la King James, nous, on dit « voici ». Tu sais? Voici, j'ai ouvert une porte. Mais le mot « behold », quand tu te mets à fouiller et à essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir te dire en utilisant le mot « behold » ou « voici ». Ça, je dis que ceux qui traduisent la parole de Dieu, c'est difficile de traduire la parole de Dieu. Parce que dans le mot « behold », il y a une idée qui est développée, qui n'est pas dans le mot « voici », à mon avis. Parce que ça dit, la King James, on va vous dire qu'est-ce qu'on veut dire par « behold ». Ça a un sens très riche. Et voici l'idée que ça traduit. Ça traduit l'idée qu'une personne se doit de s'arrêter, d'observer très attentivement, de percevoir par la vue ou l'appréhension, de sonder et de contempler. Le mot « behold », c'est ça que ça veut dire. Ça fait que dans la version anglaise, quand tu dis « behold », le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Arrête-toi, observe, sonde, et ouvre-toi l'intelligence à la compréhension que c'est moi qui est au contrôle. Autrement dit, arrête, sonde, pense, réfléchis. C'est ça, behold, et c'est dedans. Mais quand le mot voici, selon moi, ça ne traduit pas behold. En tout cas, je vous le partage parce qu'il dit, il y a trois fois dans le passage qu'on va étudier aujourd'hui, il y a trois reprises quand vous regardez dans la King James, il y a trois fois que le Seigneur utilise le mot « behold ». Quand que dans le verset, le Seigneur utilise le mot « behold », c'est ça qu'il est en train de te dire. Arrête, observe et remarque ce qui se passe là. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mm. Il faut que tu prennes le temps. Tandis que toi, tu lis, voici, souvent, tu passes droit, tu le vois même pas. Et ici, c'est pour ça que quand il dit « Behold » ou « Voici », j'ai ouvert une porte. Autrement dit, « Voici, ouvre-toi les yeux, examine que si je permets que l'Évangile dépasse Philadelphie et que vous alliez dans la Phrygie, c'est moi qui rouvre la porte. Et si je la rouvre, personne ne va pouvoir la fermer, même si le diable et tous les démons ensemble et tous les êtres humains, toutes les forces politiques de l'époque voudraient dire « On va te fermer ta porte. » Le Seigneur dit « Non, non, non. Si moi je la rouvre, ça va ouvrir. Personne ne va fermer. Puis si je la ferme, personne ne va rentrer. » Souvenez-vous, des fois, Paul il disait qu'il voulait aller en Asie. Il dit « Le Seigneur m'a fermé des portes. » Il ne voulait pas. Le Seigneur ne voulait pas qu'il aille en Asie. Il fermait la porte. Comment Paul aurait se serait astiné? Oui, je veux y aller pareil. Il n'aura pas fonctionné. Alors, j'ai ouvert une porte devant toi, personne ne peut la fermer. Alors, nous ne devons pas, ici, devant ce passage-là, manquer l'intervention personnelle de Christ pour ouvrir des portes pour l'effort missionnaire. Voyez-vous, en lisant le texte d'aujourd'hui, ça nous donne une leçon à nous. On veut en faire un effort missionnaire. Là. On en parle depuis quelques semaines, quelques mois. Mais si on veut faire un effort missionnaire, la première chose à réaliser, c'est que c'est Jésus lui-même qui va l'ouvrir la porte ou qui va la fermer. Puis quelle est la manière de mettre Jésus sur notre bord, autrement dit? Prions. Prions avec vraiment beaucoup de ferveur. Et on voit à l'intérieur, quand il dit « Behold », on voit que son intervention à lui, elle est efficace. Parce que quand il dit « Si je rouvre, personne ne va fermer, puis si je ferme, personne ne va l'ouvrir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il ferme, ça marche, puis quand il rouvre, ça marche aussi. Alors, l'efficacité est garantie. Le Seigneur veut que ses serviteurs perçoivent le lien entre leur fidélité aux Saintes Écritures et la conservation de son nom apporte comme conséquence de grâce. Si on fait un effort individuel et on fait un effort collectif pour garder notre fidélité à Christ par rapport aux Écritures et par rapport à son nom, tu as gardé mon nom, ben l'effet que ça va avoir, ça va être qu'il va pouvoir se servir du fait qu'on a peu de force, on a peu de puissance. Même on peut être cassé comme un clou, puis il peut nous ouvrir des portes à tour de bras. Alors, le Seigneur, ici, fait trois observations à ses fidèles de Philadelphie. Ils sont petits, pauvres et peu puissants. Ça ressemble-tu à nous autres, ça? On est petits, on est pauvres, on est peu puissants. Cependant, ils ont gardé la parole de Dieu au centre de leur vie, au centre de leur doctrine, au centre de leur pratique. Une église qui demeure en santé, c'est une église dont la parole de Dieu est au centre de leur culte. Ça, c'est un signe immanquable. Puis tant qu'on va faire ça, le Seigneur va nous bénir, va permettre que notre chandelier reste allumé en témoignage dans le monde. Alors, le reniement... Pour les Philadelphiens, ça ne faisait pas partie de leur vocabulaire. Ils ont précieusement et publiquement proclamé tous les aspects des enseignements précieux du Seigneur et Sauveur. Oui, ici, il y a une leçon à apprendre pour nous. Une église qui tombe dans les chauds, et ça, c'est de plus en plus fréquent au 21e siècle, au 20e siècle, les églises deviennent des spectacles. Les orchestres, puis des shows, puis des pièces de théâtre, puis ça attire beaucoup le monde. Mais c'est pas ça que le Seigneur, il veut. Il veut que la parole, tu as gardé ma parole, pas tu as gardé mes spectacles, tu as gardé ma musique, tu as gardé ma parole. Alors ça va entraîner, comme on le voit dans le verset 9, des conséquences. Et ces conséquences-là, c'est des conséquences de nature divine. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se dit juif, qui ne sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai donné. Voyez-vous, le deuxième behold, il est là.
Ouais.
Fait que, encore une fois, le Seigneur, il veut que tu t'arrêtes et il veut te faire prendre conscience que s'il veut, ceux que tu considères comme tes ennemis, qui t'écouteront jamais, tu te dis, ça ne donne rien que j'en ai. Je me souviens d'avoir déjà lu des livres qui appelaient ça des réveils en Angleterre ou en Europe, où il y avait des villages qui étaient tellement renfoncés dans le péché que quand quelqu'un voulait rentrer dans ce village-là et de prêcher l'Évangile, la plupart avaient renoncé à y aller parce que c'était tellement enfoncé dans le mal là, que les gens disaient, ça ne donne plus rien d'aller dans ces places-là. Il n'y a rien à faire. Ils sont pourris. Ben, il y a eu des personnes qui avaient à cœur, que le Seigneur leur avait mis à cœur, de prier des jours et des jours sur leurs genoux à supplier le Seigneur. Je comprends que cette région-là ou cette ville-là ou ce village-là est fermée. Il n'y a pas plus fermé que ça. Puis, tu sais, il était devant le Seigneur, il priait. Et des fois, quelques jours après, il rentrait dans le village, puis il y avait du succès dans l'évangélisation. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est parce qu'il était plus fin qu'un autre, ou qu'il y avait un traité qui avait des meilleurs mots dessus? Non, c'est le Seigneur qui avait ouvert. Alors, le deuxième behold, si on étudierait et qu'on regarderait dans le texte, chaque fois que je vois le mot « voici », il est en train de te dire « arrête-toi, puis réfléchis, médite ». À ce que je suis en train de te dire. Applique les leçons que le verset est en train de te donner. Alors, non seulement le Seigneur va permettre qu'ils continuent à avancer dans leur effort missionnaire, mais le Seigneur, non seulement va permettre qu'ils avancent, mais ils vont avoir une victoire sur leurs ennemis qui sont les Juifs. Les Juifs, à l'époque, étaient les pires ennemis des chrétiens, c'était les Juifs. Dans ces villes-là. Alors, le Seigneur décrète ici qu'il les fera venir se prosterner devant eux et s'humilier. Imaginez-vous, pour les Juifs de l'époque, ils étaient convaincus que les païens, c'était tous des méchants, puis que même les chrétiens, ils les considéraient comme des balayures. Le Seigneur, il dit, non seulement je vais te donner du succès, mais ils vont venir à tes pieds, puis ils vont reconnaître que c'est toi qui as raison. Mais pour les Juifs de l'époque, ça prenait une œuvre divine pour être capable de faire ça. Là, parce que jamais les Juifs auraient dit que les chrétiens ont raison. Le Seigneur a dit, non seulement je vais te donner l'avancée dans ton effort missionnaire, mais je vais te donner que tes pires ennemis viennent à tes pieds et qu'ils reconnaissent que je t'ai aimé. Que eux considéraient comme étant des personnes que Dieu n'ouvrirait jamais la porte. Je vais les emmener à tes pieds, ils vont reconnaître que je t'ai aimé. Même si vous n'êtes pas des Juifs, le Seigneur vous aime et je vais leur démontrer toute cette affaire-là. Quand il dit « behold », c'est que vraiment là-dedans, la chose à faire, c'est de s'arrêter puis voir la grandeur du Seigneur Jésus. C'est ça qu'il t'invite à le faire. Moi, j'avoue qu'avant de lire ces passages-là sur le mot « behold », voici... Mais quand on s'en souvient, qu'on le relit, là, ça prend tout un autre sens. Le Seigneur t'invite à réfléchir, à appliquer les principes qui sont dits dans le mot « behold » pour dire, il y a des choses qui te sont enseignées à toi personnellement et à l'Église locale comme corps communautaire. Ça fait qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine.